aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous suivez votre émission Fait Marquant. Fait Marquant, c'est cette émission qui donne la parole aux femmes et aux hommes pour nous permettre de comprendre les événements marquants de notre pays en particulier et du monde en général. Je croirai vraiment à la liberté de la presse quand un journaliste pourra écrire ce qu'il pense vraiment de son journal et dans son journal. Attention, cette phrase n'est pas de moi, elle est de Guy Bezos, acteur et cinéaste réalisateur français. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire le procès de nos médias, mais nous allons toucher du doigt les problèmes que subissent les femmes de la presse au Mali, au sein de leur rédaction et même en dehors. Il s'agit du harcèlement et plein d'autres problèmes. Pour en parler, nous sommes avec Doussou Diré. Doussou, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Guindo.
Merci d'être venu sur le plateau de Fait Marquant.
Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour parler des femmes journalistes.
Merci. Le plaisir est partagé. Alors, dans cette émission, on a pour habitude de donner une brève biographie de notre invité. Okay. Sans plus tarder, on va y aller. Donc, vous êtes journaliste et membre de l'Association des femmes de la presse, AFPM.
Absolument.
Voilà, vous êtes également journaliste de formation et professionnel. Vous exercez depuis 2002 à l'Essor, le quotidien national.
Oui.
Et en qualité de reporter. Et vous avez servi plusieurs rubriques, notamment Femmes et Environnement, et Faits divers, le desk Économie, Finance et Développement.
Tout à fait.
Voilà. Et au sein de l'Association des femmes de médias, vous êtes secrétaire des questions administratives et juridiques.
Oui.
Aimeriez-vous ajouter quelque chose ou,
Non, de façon synthétique, tout est dit.
D'accord.
Et voilà. Donc, j'ai servi à l'Essor, c'est depuis mon stage en tant qu'étudiant en journalisme, jusqu'à mon recrutement et jusqu'à ma nomination aux différents postes.
D'accord.
Donc, je suis un pur fruit de l'Essor. J'en suis fier d'ailleurs parce que l'Essor, en tant que tel, est une école.
Ouais.
Donc, en dehors de ça, je suis journaliste d'investigation aussi. C'est mon domaine de prédilection.
D'accord.
J'ai fait beaucoup d'enquêtes dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a permis de me révéler en tant que journaliste. J'évolue dans l'institutionnel maintenant, que je considère comme un tremplin, parce que ça me permet de connaître d'autres facettes de la communication, différents un peu du journalisme. Mais tout ça, c'est pour servir le pays.
Ouais.
Voilà, donc nous
fait.
Sommes au service du
tout
pays.
Tout à fait. Et vous êtes sans doute une femme très, très, très compétente.
Merci.
Et c'est qui est à féliciter et surtout à galvaniser. Alors, le 3 mai dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la liberté de la presse.
Mm-hmm.
Et en tant que femme professionnelle des médias, quel regard portez-vous sur la liberté de la presse au Mali?
Bon, le 3 mai, c'est comme toutes les célébrations, c'est une manière de faire le bilan de ce qui a été fait, de nous projeter sur l'avenir. La situation de la presse, les voix les plus autorisées l'ont dit, notamment les présidents de la maison de la presse et les professionnels de la presse, est un peu lamentable maintenant. On y voit beaucoup de dérives émanant de nous-mêmes, acteurs de la presse, mais on voit aussi beaucoup de restrictions. La liberté s'effrite. Selon ce qu'on dit, on le constate tous. Mais on souhaite aussi que la situation socio-économique et politique du pays soit à la hauteur de cette liberté d'expression et de presse qui a été chèrement acquise par nos doyens pour nous permettre, nous, de la nouvelle génération et ceux qui sont après nous, de s'exprimer et d'étaler véritablement leurs talents.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et vous pouvez en quelques mots nous présenter l'AFPM. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses missions et depuis quand elle existe?
L'Association des femmes de la presse malienne, elle est née en 2020. C'est à la suite d'une prise de conscience des femmes journalistes. Avant, toutes les femmes de la communication se retrouvaient dans une autre organisation qui est encore là, mais qui n'est plus aussi vivace. Donc, nous avons vu cette nécessité de créer cette association qui regroupera toutes les femmes professionnelles de la presse. C'est pour permettre de mieux défendre nos droits, mais aussi de donner de la visibilité aux femmes de la presse, mais surtout de défendre les femmes de la presse dans l'exercice de leurs fonctions, dans les dérives dont elles sont objets ou les difficultés dont elles sont objets, de les aider à se former pour être à la hauteur d'être appelées femmes journalistes. Donc c'est une jeune association qui est là, qui a été créée depuis bientôt 3 ans, qui est très active sur le terrain dans la formation des jeunes journalistes, qui est très active aussi dans la défense des droits des femmes de la presse.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Moi, je suis la secrétaire chargée des questions administratives et juridiques. Donc, nous avons, de 2020 à ce jour, nous avons entrepris beaucoup d'activités visant à promouvoir la femme journaliste et les femmes de presse dans leur métier.
D'accord. D'accord. Pour revenir à notre sujet du jour, dans le cadre de la Semaine nationale de la presse du Mali, le sujet de harcèlement subi par les femmes de médias dans leurs organes respectifs est revenu sur la table. Okay. Est-ce qu'en ce jour, on a des chiffres de femmes maliennes journalistes harcelées au sein de leur rédaction?
À ce jour, c'est un sujet récurrent qui revient à chaque fois. Mais vous ne trouverez pas de chiffres aujourd'hui. Et même demain, vous n'en trouverez pas.
Pourquoi ça?
Parce que l'harcèlement en tant que tel, c'est une question taboue. Quand on parle d'harcèlement, les gens pensent directement aux harcèlements sexuels. Alors que les harcèlements des femmes de la presse vont au-delà de ça. Elles vont de la discrimination. Elles commencent à partir de la discrimination. C'est-à-dire qu'une femme journaliste et un homme journaliste qui sont recrutés en même temps, la femme journaliste, tu es directement envoyée dans les domaines dites femmes. C'est-à-dire que tu seras chargée, s'il y a des reportages, tu seras dirigée vers des reportages qui font des reportages de femmes, des reportages de société. Alors que l'homme journaliste est formé et nouvellement venu dans une rédaction est directement dirigé dans les questions majeures, c'est-à-dire les questions politiques, les questions de développement, les questions de sport, les questions de numérique, les questions même de sécurité et de défense. Donc c'est une forme de discrimination que les femmes journalistes vivent. Au-delà de ça, il y a des harcèlements aussi. Les harcèlements, on en a dit à la célébration du 3 mai. Les femmes journalistes en sont objet au quotidien. Et malheureusement, les auteurs de ces harcèlements, ce sont la plupart du temps nos confrères. Les femmes ont l'habitude de le dire, la plus grande difficulté de la femme journaliste dans l'exercice de sa fonction, c'est au sein de la rédaction elle-même. Il s'agit de ces confrères qui sont là, qui ont des petits mots souvent blessantes, qui ont toujours des remarques à faire sur votre accoutrement. Ce sont des harcèlements. Au-delà de ça, souvent ça peut aller au-delà de ça. Ça peut même devenir des harcèlements sexuels, parce que souvent ça tend vers les harcèlements physiques, parce que ça commence par les petits mots, j'ai dit. Ça finit par les remarques subjectes. Souvent, ça va par les, comment on le dit chez nous, les attouchements. Et malheureusement, ça peut aller aussi aux violences. Aux violences qui consistent au viol, mais on n'en parle pas.
Pourquoi ce silence? Pourquoi ce mutisme autour de cette thématique aussi grave?
Le mutisme, ça s'explique par notre culture et notre société. C'est l'éducation que les femmes perçoivent chez nous fait d'elles des objets de silence. Une femme journaliste qui vient d'arriver et qui est objet, par exemple, d'harcèlement de la part d'un rédacteur en chef ou des responsables de la rédaction, vous posez certaines questions avant d'aborder ce sujet. D'abord, vous demandez à qui en parler. Au sein de la rédaction, certainement, vous n'en trouverez personne. Parce que la première personne à qui vous en parlerez vous dirait certainement, « Ah, laisse tomber, tu viens d'arriver. Donc, si tu en parles, tu ne feras pas long feu. » Effectivement, c'est vrai, si tu en parles, tu ne feras pas long feu. Parce que ce sera ta parole contre la sienne. Et malheureusement, ces problèmes ne sont pas soulevés directement après les faits. C'est souvent quelques mois après les faits, après le traumatisme, qu'elle ose en parler. Mais elle en parle souvent dans le sillage familial, mais très peu dans le sillage professionnel. Mmh. Voilà. Il y a aussi le fait que le silence, je le disais, est la règle d'or. Vous présentez comme victime, on vous présentera comme toujours objet à une victimisation et vous serez écarté. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font qu'elle n'en parle pas. Mais depuis le 3 mai, nous avons eu vent qu'au niveau de la maison de la presse, il y a un mécanisme qui est en place qui permet aux femmes victimes de ces harcèlements et même d'autres difficultés au sein de la rédaction de venir les exposer, de trouver des conseils psychologiques, mais aussi de trouver même des conseils juridiques. Ce qui est une avancée certaine dans le domaine parce que nos doyennes qui ont vécu dans la presse, qui la plupart du temps ont fini par abandonner, ont été objets à ces mots, mais ne l'ont jamais souligné. C'est considéré comme un tabou en réalité. Tout va bien dans la rédaction et tout va bien. Vous êtes objet d'harcèlement, à qui vous plaindre ? À votre rédacteur en chef la plupart du temps. Et si c'est le rédacteur en chef même qui est votre gourou, à qui vous plaindre? Au directeur de publication, la plupart du temps, les stagiaires qui viennent n'ont pas accès au directeur de publication. Ils évoluent entre les différents chefs de la rédaction, mais on voit très rarement les directeurs. Donc, ce qui fait que c'est une problématique majeure qui existe et qui constitue une entrave dans l'exercice du métier des femmes dans le journalisme, qui est l'Association des femmes journalistes du Mali, des femmes de la presse du Mali, a décidé de prendre à bras le corps. Parce que beaucoup de nos consoeurs, bien formés, très motivés, qui sont venus, ont fini par abandonner. Pour quelles raisons, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, les langues commencent à délier et la parole commence à être libérée. Donc, les femmes journalistes osent de plus en plus parler des difficultés qu'elles vivent dans leur rédaction. Et l'association se donne pour rôle de faire un plaidoyer, mais aussi d'offrir à ces femmes la protection juridique en cas de problème.
D'accord. Là, sur le plan juridique, on va y revenir. Mais avant cela, est-ce que vous avez déjà eu vent d'un cas qui vous est resté à l'esprit, un cas d'harcèlement?
Moi, j'ai rencontré une ancienne journaliste, il n'y a même pas longtemps, c'était le 4 mai, qui est venue en même temps que nous dans la profession, qui avait embrassé la presse privée. Quand on a parlé de cette problématique. Et après la conférence, elle est venue, elle m'a dit, Dessous, c'est l'harcèlement, c'est la violence sexuelle qui m'a fait quitter ma rédaction. Elle m'a dit, quand je suis venue pour la première fois, elle est venue d'une grande université, et elle aussi, elle avait cette soif d'expression, de s'exprimer et de se faire entendre. Donc, quand elle est venue, elle a commencé dans une rédaction privée. Et quand elle est venue, les premières remarques au sein de la rédaction, c'était par rapport à sa courbe physique. Donc, chaque fois, on lui disait, il ne faut pas porter de jupe, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Entre-temps, ça a commencé par des attouchements. Et quand elle a eu à se plaindre de ces attouchements d'un de ses confrères, elle s'est sentie isolée. Elle s'est sentie isolée et de ce fait, au sein de sa rédaction, à peine on répondait à ses salutations. Mais malgré tout, elle est restée. Et entre-temps, malheureusement pour elle, celui dont elle s'est plaint est devenu rédacteur en chef de cette même rédaction. Donc finalement, trois jours après avoir pris son service, son rédacteur en chef, son gourou, est venu lui dire de céder la place à un stagiaire. Comme il le disait, celui-là est plus compétent. Je préfère qu'il ait une place fixe que toi. Donc, elle était là, elle était restée et elle a pris un jour sur elle d'aller présenter ses excuses à Célie qui l'harcelait. Donc, elle est partie voir son rédacteur en chef. Elle lui a présenté les excuses. Bon, je tiens à m'excuser parce que je pensais. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Bon, de toutes les façons, tu sais ce que je ressens pour toi.
Encore.
Donc, c'était devenu comme si c'était un échange, c'est-à-dire que je te mets à ta place et en contrepartie, tu me donnes ça. Je te remets dans la rédaction, je te remets en fonction, je te mets en reportage, je te mets dans tel voyage et en contrepartie, tu me donnes ça. Donc, finalement, c'est devenu une histoire d'amour entre les deux qui n'a pas marché. Parce que quand maintenant il l'a utilisé, il y a une autre stagiaire qui est venue, qui est devenue sa préférée. Donc elle n'a pas pu supporter, elle a quitté. Finalement, elle n'est plus de la presse, elle est de la communication. Mais le 4, elle m'a fait ce témoignage et de façon vraiment succincte et ça m'a marqué. Mais de façon générale, toutes les femmes journalistes au sein de nos rédactions ont une fois était objet de ces harcèlements, de ces discriminations. Toutes les femmes journalistes, sans exception, la gravité de l'harcèlement peut évoluer, soit des harcèlements moraux, des harcèlements psychologiques, des harcèlements... Mais ça peut évoluer des harcèlements moraux. Même souvent, une femme journaliste, quand tu viens, par exemple, tu présentes ton article à ton chef, au lieu de dire bon, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, dis vraiment tout l'effort que tu mets à t'habiller, si tu le mettais sur ton papier, c'est une forme d'harcèlement, parce que c'est comme si son accoutrement était égal à son rendement psychologique, à son rendement intellectuel. Donc ce sont des situations qu'on vit dans nos rédactions les plus fortes essaient de se relever, et celles qui ont de faibles mentalités, par contre, ont du mal à se relever. La plupart finissent par quitter la presse.
Mais avant la naissance de votre association, il n'y avait aucun mécanisme à qui s'adresser pour ce genre de problème?
C'est maintenant qu'on en parle. Il y a même un déni autour de... L'autre jour, à la maison de la presse, quand la question a été évoqué, les hommes, nos confrères ont dit, c'est elle qui nous provoque. Dites-leur de changer d'habillement. Dites-leur de changer de démarche. Donc, ça veut dire qu'il y a un déni total autour du sujet. Quand l'habillement d'une femme devrait vous inciter à l'harceler ou même à s'attaquer à elle, ça veut dire que elle en vaut très peu. Et ça veut dire que jusqu'à présent, la situation n'est pas perçue de façon critique. Donc, la maison de la presse, c'est toujours le lieu d'expression de tous les journalistes. Mais bon, je n'ai pas eu de vent. J'ai vent des mécanismes d'aide et d'appui aux femmes violentées. Mais je n'ai pas eu vent de mécanismes d'aide et d'appui aux femmes journalistes qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une première.
D'accord. Mais est-ce que, après tous les arguments que vous avez annoncés, est-ce que nos mamans, nos sœurs sont exemptes de tout reproche?
C'est vrai qu'elles ne sont pas exemptes de tout reproche. Nous avons eu à le dire aussi. Et nous commençons à conscientiser nos jeunes sœurs par rapport à ça. Parce que le journalisme, c'est relativement un métier de prestige. Un métier de prestige qui ouvre beaucoup de portes et qui vous met en contact avec beaucoup de personnalités. Donc, pour beaucoup de nos jeunes consoeurs aussi qui arrivent dans le métier, elles pensent que ce métier est juste une aubaine pour elles d'accéder à telle ou telle personne. Donc, une fois accédées à ces personnes, elles se donnent aussi les moyens de... Ces gens aussi font objet d'harcèlement. Ces gens peuvent être du milieu politique, ces gens peuvent être du milieu administratif, ces gens peuvent être du milieu économique. Donc, selon elle, le journalisme, c'est une aubaine pour accéder à ces gens. On a eu aussi à lors du 4 mars, du 4 mai, à faire aussi notre mea culpa. Et ce mea culpa va de nous-mêmes, de notre accoutrement, de la manière de nous habiller de façon décente pour être à la hauteur quand même de... pour être digne de ce métier. Parce que nous avons remarqué aussi que beaucoup de nos jeunes sœurs qui arrivent maintenant s'habillent très mal. S'habillent tellement... Leur habillement n'a rien à voir avec nos... le métier. Il y a ça. Il y a aussi d'autres dérives émanant de nous-mêmes que nous avons identifiées. Mais ces dérives sont pour la plupart liées au manque de formation. C'est-à-dire que une personne qui vient dans le métier comme ça ne saura jamais que ce métier a de la valeur au-delà de comme ça dans lequel elle est rentrée. Donc nous pensons que la formation, elle est primordiale pour être une journaliste.
D'accord.
Voilà.
En tant qu'aînée et grande sœur, sûrement maman, quand vous rencontrez ce genre de situation dans une rédaction, que faites-vous?
La plupart du temps, des jeunes sœurs, quand je les rencontre, moi j'ai l'habitude de j'étais à un lieu de... J'étais chargée de communication dans un département et j'avais une réunion interministérielle de plusieurs ministres. Et j'ai vu une consœur qui est venue en mini-jupe. Elle était à la limite nue. Parce qu'elle était en mini-jupe et elle portait aussi une haut débradeur. Donc j'étais obligée de l'appeler à côté, de lui dire d'aller se changer. Parce que cet habillement ne reflète pas la cérémonie. Elle ne reflète pas nos réalités sociétales. Elle ne reflète pas une bonne éducation et même une bonne visibilité de la femme. Donc, de temps en temps, on essaie de le faire quand on rencontre nos jeunes sœurs. Mais l'association, c'est là où l'association va intervenir. L'association va intervenir en dressant un code de conduite pour le femme journaliste, dans l'exercice de sa fonction. Un code de conduite qui va refléter l'éthique et la déontologie du journalisme, mais aussi qui va refléter nos réalités. Donc, c'est tout l'importance de cette association dont nous avons vivement salué la création et dont nous activons vivement pour qu'elle soit une réalité parce que ça va nous permettre d'éviter beaucoup de problèmes qui peuvent surgir. Parce qu'à la longue, on ne serait même plus fier de se faire appeler journaliste. À plus forte raison, femme journaliste. Parce que derrière ce métier maintenant, les gens l'assimilent aux gens qui le font. L'autre jour, je regardais un film français à Arte. Et le film disait, je suis femme journaliste, mais je ne suis pas prostituée. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui pensent qu'être femme journaliste aussi, c'est être de l'autre revers de la médaille.
Tout pour avoir l'information.
Voilà, tout pour avoir l'information. Souvent, jusqu'à l'extrême. Donc, nous allons nous atteler au sein de l'association. En tout cas, de donner des bases solides à nos jeunes sœurs pour évoluer sainement dans ce métier.
D'accord. Et on rappelle que l'harcèlement n'est pas le seul problème que rencontrent les femmes journalistes
Absolument.
Au Mali. Il y a plein d'autres.
Okay.
Par exemple, la responsabilité au sein des médias, vous l'avez évoqué au début de votre propos. Pour vous, aujourd'hui, vu que les femmes maliennes, les femmes de la presse surtout, pour préciser, n'ont pratiquement rien à prouver. Pourquoi jusqu'à présent cela cale? Pourquoi jusqu'à présent elle n'arrive pas à accéder au poste de responsabilité selon vous?
C'est la grande question que nous-mêmes nous posons en tant que femmes journalistes. Et l'intégration des femmes dans le métier du journalisme est intervenue en même temps que la création même des premiers médias au Mali. La première femme à exercer comme journaliste au Mali, c'était en 1959. C'était notre regrettée tante Aïssata Cissé, de l'ORTM, qui a été recrutée comme speakerine. Après, il y a eu plusieurs générations de femmes journalistes qui sont venues, qui sont sorties de grandes écoles, de grandes universités de journalisme et de communication. Donc, qui ont évolué tant bien que mal dans le métier. qui ont vécu avec beaucoup d'amertume l'inaccessibilité aux postes de responsabilité au sein de leur rédaction, aux femmes journalistes. Moi, personnellement, j'ai entamé une étude là-dessus et ce que j'ai remarqué inquiétant. De 1960 à ce jour, pour le cas de l'ORTM, par exemple, aucune femme n'a occupé un poste de responsabilité à niveau N plus 3. N plus 1, c'est N, c'est le directeur général. N plus 1, c'est son adjoint. N plus 2, ce sont les directeurs techniques, directeurs télé, directeurs à radio et autres. N plus 3, ce sont les divisions. On a une seule qui a été N plus 3 à ce jour, de 1960 à ce jour. Les femmes de l'ORTM, les femmes journalistes de l'ORTM ont tendance à dire même, quand tu es femme journaliste, tu rentres à l'ORTM, c'est comme si un caporal de l'armée qui rentre dans l'armée. Tu rentres dans l'armée, tu exerces pendant 30 ans et tu sors caporal. C'est-à-dire que tu n'as pas de grade. Cela est valable aussi aux autres médias. À l'essor, heureusement aujourd'hui, on a une femme qui est directrice adjointe. Sinon, de 1947 à ce jour aussi, il n'y avait pas de femme qui avait occupé de poste de responsabilité à N plus 3. C'est valable aussi à nos grandes rédactions. L'Indépendant, qui compte à peu près une vingtaine de journalistes, il n'y a que deux ou une femme journaliste qui exerce et qui occupe même le poste de responsabilité. Infomatin, c'est la même chose. Une vingtaine de journalistes, une ou deux femmes qui évoluent en tant que journalistes, mais pas de poste de responsabilité. Les Échos, une journaliste qui évolue en tant que journaliste, mais qui n'occupe pas de poste de responsabilité. L'avènement des télévisions privées font changer un peu la donne. Nous avons vu à Renouveau, il y avait une femme responsable. Nous avons vu ici aussi, il y a une femme rédactrice en chef. Donc ce sont des évolutions qui commencent à venir, mais qui viennent un peu tard.
Pourquoi tard?
Tard parce que celles qui sont nos références dans ce domaine-là sont parties avec beaucoup d'amertume, auraient voulu donner plus à ce métier en ayant plus de responsabilités. Mais malheureusement, on a tendance à dire, par exemple, dans nos rédactions, et les femmes journalistes ne peuvent pas exercer telle fonction parce que telle fonction, ça demande tel engagement et ça demande telle disponibilité. Mais on ne leur propose pas. On ne propose pas de responsabilité, mais on le dit. Si on vous met ici, vous ne pourrez pas le faire parce que ça va vous demander tel engagement, ça va vous demander telle disponibilité. Mais on ne te demande pas est-ce que tu es disponible à faire ça, mais on ne te le met pas. Et l'explication qu'on trouve à dire, c'est quand on te met, tu ne pourras pas le faire. Ou bien quand on te met, ça va impacter sur ton foyer. C'est un paternalisme qui est là. Oui. Tu as l'impression que c'est pour te protéger. Mais en réalité, c'est une discrimination criarde qui est là. Parce que moi, je comprends très mal. Moi, j'ai vu des grandes dames de la presse. Les Fatim Sidibé. Les Fatim Maïga de l'Essor. On en a vu beaucoup de grandes dames de la presse qui sont passées, qui auraient pu être des directrices de télé, qui auraient pu être même des directrices de l'ORTM, mais qui ont vécu tellement d'amertume pour n'avoir pas occupé, pour être venues journalistes simples et sorties, 40 ans de carrière et sorties journalistes simples. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension qui est là, de ce métier, qu'il va falloir aussi combattre, parce que à diplôme égal, compétence égale, responsabilité doit être égale aussi. L'accès aux responsabilités doit aussi être égal.
D'accord. Mais aujourd'hui, on taxe les femmes de préconiser elles-mêmes, en dehors de ce que vous avez dit, on dit qu'elles préconisent elles-mêmes les métiers qui font moins prendre la tête, à dire qui font moins réfléchir. Est-ce que, qu'en dites-vous?
C'était avant. Avant, nos mamans, celles qui nous ont précédées dans l'administration, avaient cette appréhension. Parce que l'administration même a été conçue sur cette appréhension. Les femmes, on les met dans les métiers propres aux femmes. C'est pourquoi les premières femmes qui ont intégré l'administration ont été des secrétaires, ont été des sages-femmes, ont été des agents de poste. Ce sont des fonctions qui ne demandaient pas beaucoup de compétences et physique, et qui ne dépendait pas aussi beaucoup de compétences intellectuelles. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui, partout où les hommes peuvent exceller, les femmes peuvent exceller dans ces domaines. L'armée en est la preuve vivante. Les domaines économiques en sont la preuve vivante. La médecine en est la preuve vivante. La magistrature en est la preuve vivante. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait leur preuve dans ce domaine. Donc, je me dis que ça ne tient plus, cet argumentaire-là. Ça ne tient plus. Autant l'homme doté des formations adéquates peut exercer dans telle fonction ou dans tel poste, autant une femme dotée de la même capacité peut aussi exceller dans ce domaine.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Ce sera un peu facile de dire comment concilier la vie familiale, la vie professionnelle, puisque vous le faites déjà depuis combien d'années déjà?
Depuis près de 20 ans.
Depuis près de 20 ans. Maintenant, quelle est la difficulté à concilier les deux en ce moment?
C'est là la grande question pour les femmes journalistes. L'exercice de notre métier, vous le savez autant que moi, n'est pas facile parce qu'elle demande une disponibilité totale. Au sein d'une rédaction de presse, vous venez le matin, vous ne savez pas à quelle heure retourner. Idem pour la télé, vous venez souvent, vous ne savez pas à quelle heure retourner. Ça, c'est un handicap pour la femme parce que notre société conçoit la femme comme l'élément principal du foyer, en charge de l'entretien de la maison, en charge de l'entretien des enfants, en charge de l'entretien même de la famille et du ménage. Donc, c'est antagoniste parce que ça aussi, ça demande une disponibilité à certaines heures. C'est très mal vu dans notre société, par exemple, de voir une femme qui sort tous les matins et qui ne rentre qu'à des heures tardives. Ça peut porter à interprétation. Si le mari ne le comprend pas, ça peut même créer des difficultés au sein de nos ménages. Et malheureusement, c'est la plus grande casse-tête pour les femmes journalistes. D'ailleurs, c'est l'une des causes qui constitue un frein à l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Parce que ce n'est pas seulement à la faute de nos chefs de ne pas nous mettre dans des postes de responsabilité. C'est souvent aussi lié à ça, à nos propres difficultés, à nos propres vécus. Donc, c'est une situation difficile qui est là. Il n'y a pas de recette magique. Chaque femme, aussi bien journaliste comme magistrate, comme avocate, comme médecin, essaie de s'organiser en fonction du niveau de compréhension de son conjoint, niveau de compréhension, niveau d'accompagnement de ton conjoint, mais aussi en fonction de toi-même, de tes ambitions. Une femme qui a l'ambition, par exemple, de faire carrière, d'être visible et lisible, tu seras obligé d'abandonner certaines choses au sein de ton foyer pour le travail. Donc, on essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire moitié-moitié. Quand on est au travail, on se donne au travail. Et quand on rentre à la maison, on essaie de montrer aussi qu'on est de bonnes mères de famille, qu'on est d'excellentes épouses aussi, en nous occupant de l'entretien. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Il faut compter sur la compréhension et l'aide et l'accompagnement de ta famille, la compréhension et l'aide et l'accompagnement surtout de ton conjoint. C'est que dans notre société, vu les pesanteurs culturelles qui persistent, c'est très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est très difficile dans le domaine de trouver des femmes journalistes qui ont pu réussir leur profession avec brio, qui ont pu réussir leur vie de foyer avec brio et qui ont été de très bonnes mères de famille. C'est très difficile d'en trouver. En tout cas, parmi nos doyennes, elles ont malheureusement été victimes de ça. Il y en a qui n'ont jamais pu se marier parce que on assimile le journalisme à autre chose. Parce que la disponibilité que demande le journalisme, elles n'ont pas été à la hauteur de faire la part des choses entre le métier et le foyer.
Excusez-moi de vous arrêter. J'espère qu'en ce moment, maintenant, ce problème n'existe plus.
Ça continue. Ça continue. D'où d'ailleurs ce plaidoyer que fait l'association. Mmh. Et que l'association compte faire à chaque fois qu'on peut, à l'endroit de nos conjoints, mmh. à l'endroit des hommes qui aspirent à marier des femmes journalistes. Mmh. Parce que c'est un métier de contrainte. C'est un métier hautement contraignant. C'est un métier, par exemple, qui fait demander à une femme d'accompagner, par exemple, un responsable à dehors, en dehors du pays, ouais. qui peut prendre d'une semaine à un mois. Mm-hmm. J'imagine la vie des femmes journalistes qui font le journalisme sportif. Mm-hmm. Pour une compétition sportive, par exemple, ça peut prendre souvent plus d'un mois. Mm-hmm. Donc, dire à un conjoint de vivre seul pendant un mois, de s'occuper seul des enfants pendant un mois, de s'occuper seul de la famille pendant un mois, mm-hmm. souvent, c'est très difficile. Nous faisons ce plaidoyer-là chaque fois qu'on le peut à mmh. nos conjoints, à ceux aussi qui aspirent à marier les femmes journalistes, mmh. que nous sommes des femmes à part entière, mais nous avons cette spécificité au sein de notre métier qui demande beaucoup de temps. Mmh. Souvent, tu es dans la rédaction, tu t'apprêtes à partir, ou bien tu es parti même à la maison, mmh. il y a une matière qui est là, c'est toi qui es en charge de le traiter. On mmh. te dit, ah, reviens rapidement. Il y a telle personnalité qui doit mmh. faire ça, ou bien il y a tel événement qui vient de se produire tout de suite. Donc, tu es obligé de venir directement mmh. parce qu'il y a une attente aussi sur toi de ce côté. Donc, souvent, les époux le comprennent. Souvent, ils ne le comprennent pas. Donc, c'est un métier. Mais ça, c'est une réalité mmh. inhérente au métier. C'est valable aux femmes journalistes comme aux hommes journalistes. Mmh. Nous avons les mêmes réalités à ce niveau. Mais pour les femmes, c'est encore plus difficile parce que c'est nous qui enfantons. Mmh. Voilà. Donc, tu t'imagines, par exemple, une femme qui est enceinte, qui est journaliste, qui, est mm-hmm. qui doit être disponible avec les contraintes liées à la grossesse, qui doit être disponible toute la journée ou qui doit être mobilisable à tout moment pour tel reportage mm-hmm. ou pour telle activité. C'est souvent contraignant. Mais ce sont les réalités du métier. C'est un métier qu'on a choisi, mm-hmm. souvent en étant conscient de ces réalités. Mais dans l'exercice où on rencontre ces problèmes, mm-hmm. ce qui arrive à maintenir les deux, bravo. Ceux qui n'arrivent pas aussi à le faire, c'est malheureux, mais c'est la réalité mm-hmm. et c'est la difficulté fondamentale dans l'exercice de ce métier.
Est-ce que, vu que la société évolue, avant, les femmes n'étaient pas sollicitées pour ce type de travail, mm-hmm. et aujourd'hui, la société n'a pas d'appréhension là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que les femmes, non seulement des médias et d'autres femmes qui travaillent, se sont une fois dit, tiens, on va organiser une rencontre où on va voir comment notre société peut s'adapter aujourd'hui à la femme fonctionnaire? Est-ce que l'initiative de telles rencontres a déjà été prise?
Ça a été fait pour les femmes exerçant mm-hmm. dans l'administration. C'est un problème qui est connu en réalité. Mais les pesanteurs sociaux persistent. Mmh. Ça persiste dans beaucoup de domaines. Mais les hommes changent aussi. Comme la société évolue, les hommes changent. Mmh. Avant, par exemple, c'était très difficile pour un mari de concevoir. Mais souvent, on voit aussi certaines de nos consoeurs mmh. être accompagnées par leur mari, même tard la nuit, mmh. pour accompagner leur mari. Ils viennent déposer leurs épouses mmh. dans les rédactions pour faire leur travail. Yeah. Et tard dans la nuit, ils viennent chercher leur épouse. Ça veut dire que ça a changé. Yeah. Sinon, avant, ça ne se faisait pas. Donc, ça veut dire que les choses commencent à changer. Mmh. Mais tout de même, nous, au sein de l'association, nous faisons à chaque fois que l'occasion se présente des plaidoyers dans ce sens. Et nous continuons à le faire parce que nous avons besoin que ce que nos tantes et nos mamans ont vécu dans ce métier, que nous ne le vivons pas. Et ce que nous avons vécu, que celles qui viennent après nous ne le vivent pas. Mmh. Voilà.
D'accord. Je me pose une question. Quand, par exemple, il y a des cérémonies sociales et que, comme ça, dans l'immédiat, on vous appelle au sein de la rédaction, comment est-ce que vous gérez ces cas de figure?
C'est ça la grande difficulté. Hein. Mmh. Nous n'avons pas de vie sociale. Alors que dans notre pays, être femme et épouse rime avec vie sociale. C'est-à-dire que tu es obligé de participer aux cérémonies de mariage qui incombent ta famille, qui incombent ta belle-famille ou même qui incombent la structure, le voisinage. Donc, nous sommes très absents de ces cérémonies parce que les dimanches, nous, on n'a pas de dimanche pour ne pas aller travailler.
Mm-hmm.
Les journalistes n'ont pas de samedi pour ne pas aller travailler. Nous travaillons tous les jours. Donc, c'est une grande difficulté. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à ce niveau. Parce que les rares cérémonies à laquelle je participe, on me dit, ah, et répondez, anti-yefouille de là. On dirait, ikastrate mogola, tu te suffis. Alors que c'est une grande difficulté parce que ces cérémonies aussi sont des baromètres de notre société. Pour voir si tu es une bonne personne, pour voir si tu es sociable, pour voir si tu es généreux et autres. Donc, malheureusement, nous n'avons pas ce luxe-là et c'est une casse-tête qu'on essaie de gérer. Souvent, on essaie d'anticiper quand il y a une cérémonie.
Mm-hmm.
Quand vous ne pouvez pas partir pour assister à la cérémonie, vous partez avant la cérémonie, vous donnez ce que vous pouvez donner, vous donnez l'argumentaire que vous avez.
Mm-hmm.
Souvent, c'est compris, souvent, ce n'est pas compris. Mais l'essentiel, quand même, c'est de montrer ta bonne volonté. Je voulais le faire, mais voilà ce qui a manqué. Mm-hmm. Mais ce qui m'a empêché de ne pas participer. Souvent, c'est compris, comme ce n'est pas compris souvent.
D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission.
Okay.
Si vous aviez un conseil pour vos consoeurs, les futurs journalistes, ce serait lequel?
Ce serait de les dire de ne pas penser que le journalisme, c'est surtout un métier de beauté.
Mm-hmm.
Parce que c'est ce que l'on perçoit malheureusement maintenant. De penser que c'est un métier intellectuel surtout.
Mm-hmm.
Mais surtout, c'est un métier d'engagement. D'engagement pour hommes et femmes qui embrassent ce métier, mais d'engagement double pour la femme qui embrasse le métier. Parce que si l'homme doit faire un effort pour exceller dans ce métier, la femme est obligée de faire deux ou trois efforts. D'abord pour se frayer son chemin, pour être visible et pour être digne d'être appelée journaliste. Cela va par l'engagement, de ne pas se cantonner, comme on l'a dit, dans les activités dites femmes, les activités de société, d'oser, il faut oser. Oser aller sur le front de la sécurité, oser aller dans les domaines de l'économie et des finances, oser aller dans les domaines sportifs, oser aller dans les domaines où les femmes vont très peu. Parce que aujourd'hui, les médias sont en réalité les vitrines de notre société. Et c'est que cette vitrine-là, quand vous le voyez aujourd'hui, vous voyez exactement la même chose que vous voyez dans notre société. Les femmes restent dans leur rôle de femme et les hommes dans leur rôle d'homme. Alors que l'évolution actuelle du pays demande un comme à nous tous, hommes comme femmes, d'exceller.
D'accord.
Pour le pays.
D'accord.
Donc, c'est le conseil que je dirais aux filles.
D'accord.
Mais surtout de se former. N'est pas journaliste qui le veut. Et ne peut pas être un bon journaliste qui le veut.
D'accord.
Acceptez d'aller vous former. Même si vous avez d'autres profils de formation, acceptez de vous former avant d'exercer ce métier.
D'accord.
Aujourd'hui, on est très peu fiers de ce qui se passe, de ceux ou celles qui se présentent comme journalistes. Parce que être un bon journaliste et ne pas être capable de placer une bonne phrase, c'est une aberration. Malheureusement, on le constate maintenant. Et ça ne dérange même pas celles qui sont aspirantes journalistes. Et alors que ce métier, ça demande beaucoup d'engagement. Ça demande beaucoup de formation et ça demande une culture générale forte.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé.
Merci.
Je vais ajouter aussi aller à l'école de Dossou Djiré, être femme journaliste enquêteur.
On a des tantes qui sont là aussi. Donc moi, je suis à leur école jusqu'à présent.
D'accord.
Voilà, donc nous allons demander à nos jeunes sœurs, allons à l'école de nos doyennes.
D'accord.
Elles sont les meilleures. Elles sont aujourd'hui... Elles représentent mieux la presse féminine, que nous nous sommes encore jeunes.
D'accord.
Voilà.
Merci, merci d'être passé sur le plateau des faits marquants.
Merci bien,
c'était un plaisir de partager ce plateau avec
vous. Le plaisir est partagé.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous étions avec Doussou Diré, membre de l'Association des femmes de la presse du Mali. C'est un plaisir pour vous de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Dieu le Bativi News.